Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yannick Trigance, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, secrétaire national du PS à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Yannick Trigance, Jean-Michel Blanquer est ministre de l'Éducation depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un record de longévité à ce poste. En tant qu'opposant, vous allez bien sûr nous parler de vos points de désaccord, mais j'aimerais revenir sur un point qui est souvent mis en avant par la majorité présidentielle dans le bilan du président sortant, le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Vous qui êtes un élu local en même temps qu'un responsable national. Vous avez analysé cette mesure dans une tribune publiée par Le Monde. Est-ce que cette innovation dans l'éducation a porté ses fruits ?
Écoutez, ce que toutes les études montrent à ce jour, c'est que contrairement à ce que veut bien dire le ministre, il n'y a aucune trace d'une quelconque amélioration des résultats des élèves. Tout simplement parce que d'abord, ce genre de d'évaluation se fait dans le temps. Par contre, ce que nous pouvons observer dans les écoles, et c'est ce que je décris notamment dans ma tribune, c'est que cette mise en fait au détriment évidemment des autres classes des mêmes écoles où les effectifs sont montés de manière conséquente. Deuxièmement, et ça le ministre se garde bien de le dire, mais c'est que ces créations de postes dédoublés ont été prises sur des postes du second degré, puisque l'équivalent de 8000 postes ont été supprimés dans le second degré pour les mettre sur ces dédoublements. 8000 postes, c'est l'équivalent de la suppression de 166 collèges. Donc on voit bien que là, c'est un tour de passe-passe, et il existait avant ce dédoublement, il existait un dispositif qui était très apprécié par les équipes éducatives, à savoir le dispositif plus de maîtres que de classes, avec un enseignant de plus que le nombre de classes dans chaque école. Les équipes éducatives appréciaient ces dispositifs qui, lui, avaient fait ses preuves, mais le ministre, comme d'ailleurs tout ce qu'il a fait depuis 5 ans, consistait à supprimer d'abord ce qui avait été fait, notamment par Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Peillon et Benoît Hamon sous quinquennat précédent, eh bien s'est empressé de supprimer ce dispositif qui fonctionnait bien. Donc le dédoublement aujourd'hui, c'est un affichage, mais la réalité, c'est que dans les classes aujourd'hui, en matière de qualité et d'efficacité, tout reste à prouver.
Yannick Trigance, dans cette tribune au Monde, vous dites que ce plan a été surtout quantitatif et pas assez qualitatif, et vous regrettez notamment que les enseignants qui travaillent dans ces classes dédoublées n'aient pas reçu de formation adéquate.
Absolument. J'ai été dans une vie antérieure inspecteur de l'éducation nationale, et un enseignant donc qui enseigne dans une classe de 30 élèves, ça n'est pas la même chose pédagogiquement que lorsque vous enseignez dans une classe à 12 élèves. Or, les enseignants qui ont été donc affectés dans ces classes dédoublées n'ont absolument pas été formés. Or, c'est une pédagogie bien spécifique. On n'enseigne pas à 12 élèves, et on peut bien le comprendre, comme on enseigne à 30 élèves. Et donc, ces enseignants se sont retrouvés devant le fait accompli sans aucune formation, et donc la plus-value pédagogique aujourd'hui, là encore, reste à démontrer.
Et toujours dans Le Monde, vous dites qu'il y a des tensions aussi entre les enseignants, entre ceux qui enseignent à 12 élèves et ceux qui enseignent à 24, voire plus.
Bien évidemment, lorsque vous vous retrouvez dans une école avec un enseignant qui a 12 élèves et un qui en a 25, voire 30, bien évidemment que cela peut créer dans certains établissements des tensions, parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, parce que le niveau de fatigabilité du coup n'est pas les mêmes, parce que la pédagogie n'est pas la même. Et donc, bien évidemment, cela crée dans un certain nombre d'établissements un certain nombre, parfois, pas tout le temps fort heureusement, mais parfois cela crée des tensions, parce que les conditions de travail sont vraiment très 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 différentes lorsque vous enseignez à 12 et à 30.
Yannick Trigance, le premier sujet porté par Anne Hidalgo dans le cadre de sa campagne présidentielle a été l'éducation. Elle a d'ailleurs été critiquée quand elle a annoncé qu'elle souhaitait doubler le salaire des enseignants. Nous allons nous arrêter sur ces propositions en matière d'éducation. Dans une société extrêmement divisée, est-ce que les Français peuvent se rassembler sur cette question de l'avenir de leurs enfants ?
Bien sûr, vous avez raison. Il faut que les Françaises et les Français se rassemblent autour de la question de l'école. Parce que l'école, c'est la pierre angulaire de notre République. C'est le lieu où les enfants acquièrent cette citoyenneté. C'est le lieu où les enfants grandissent, où ils rentrent dans les apprentissages, où ils vivent ensemble aussi. Et donc où ils font l'apprentissage de l'altérité, de la différence, non pas comme un élément de division, mais comme un élément de rassemblement. Et il faut donc que cette école de la République fasse l'objet d'un consensus. C'est le projet que l'on porte pour l'école, finalement, c'est le projet que l'on porte pour notre société.
Emmanuel Macron a fait de l'apprentissage une de ses priorités. Le nombre d'apprentis recrutés dans la fonction publique, par exemple, a presque doublé entre 2017 et 2021. Est-ce qu'il faut poursuivre dans cette voie ?
Oui, l'apprentissage, c'est un des outils, bien évidemment, c'est un outil intéressant, important, qui permet à un certain nombre de jeunes de pouvoir trouver leur voie, de pouvoir trouver leur chemin. Donc il faut bien sûr développer l'apprentissage, mais il ne faut pas non plus considérer que l'apprentissage, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les solutions. La question de l'apprentissage est importante, mais vous voyez, je pense que la question de l'orientation est au moins aussi importante, parce que beaucoup de choses se jouent sur la question de l'orientation et que là, il y a des inégalités extrêmement importantes, encore une fois, en fonction du milieu d'où l'on vient.
Alors, vous le dites, l'orientation, c'est un sujet important, c'est une source d'angoisse pour les parents et les élèves. Les élèves de terminale vont bientôt présenter leurs vœux pour la rentrée universitaire 2022, avec beaucoup de déceptions souvent à la clé. Je pense aussi aux étudiants qui se sont retrouvés à la rentrée sans master. Comment expliquez-vous cette difficulté qui s'accentue d'année en année et comment Anne Hidalgo pourra-t-elle y remédier ?
Écoutez, sur la question de l'orientation, il faut que cette question soit travaillée bien en amont, dès le collège, pour permettre déjà à tous les jeunes, et à leurs familles, à leurs parents, d'avoir l'ensemble des informations sur les questions d'orientation. Les questions d'orientation, moi je l'ai vu pour mes propres enfants, et pourtant je m'intéresse à ces sujets-là de très près, mais c'est très compliqué. Les filières, les formations, ce qui est possible, ce qui n'est pas, et il y a donc là un facteur d'inégalité qui est extrêmement important. Et donc il faut travailler cette question de l'orientation. Et quant aux études que vous évoquiez à l'instant, sur la question par exemple des masters, aujourd'hui, il faut le dire, notre université n'a pas les moyens qui permettent de garantir des conditions de formation de très haute qualité à tous les étudiants. On manque, l'université française aujourd'hui manque de moyens, manque de postes d'enseignants et manque de places aussi pour les élèves dans les différents cursus universitaires.
Donc concrètement, Yannick Trigance, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut recruter davantage d'enseignants, éventuellement même créer de nouvelles universités ?
Il faudrait créer de nouvelles universités, commencer déjà par augmenter le nombre de places pour les étudiants dans bon nombre de filières universitaires. C'est d'ailleurs ce que propose Anne Hidalgo dans les premières propositions qu'elle a faites, notamment retravaillant cette question l'orientation et en permettant aux universités de pouvoir ouvrir davantage de places dans un certain nombre de filières.
Il faut revoir complètement le logiciel Parcoursup qui crée beaucoup de frustrations chaque année.
Alors Parcoursup, cette plateforme d'affectation des néo-bacheliers, finalement un outil qui aboutit d'une certaine manière au tri et à l'action des jeunes à l'entrée du supérieur. Ça a été présenté comme un outil de l'égalité des chances. En fait, ça se contente en réalité de gérer la pénurie des places, ce que j'expliquais, et d'exclure, il faut le dire, de l'université, les jeunes les moins armés. La jeunesse de France, notre jeunesse, elle aspire à se former. Et donc cette volonté d'apprendre, de s'émanciper, elle doit être soutenue, et soutenue pour tous. Et donc, il s'agit aussi d'une réponse aux grands problèmes scientifiques, sociaux, écologiques de notre société, pour lesquels la question de l'élévation du niveau de connaissance et de compétence des professionnels et des citoyens de demain est indispensable. Et donc, Anne Hidalgo propose effectivement de revoir Parcoursup et de rendre effectif le droit à l'enseignement supérieur et à la réussite.
Yannick Trigance, l'école est le reflet des inégalités qui existent dans la société française. De nombreuses écoles manquent par exemple d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, de psychologues. La candidate socialiste dit que l'école est abîmée. Ce sera l'une des priorités d'Anne Hidalgo, recruter davantage d'adultes aussi dans le domaine de la santé physique et mentale.
Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison d'en parler. Il faut savoir aujourd'hui que les inégalités sont extrêmement fortes sur les territoires, notamment par rapport à ces questions de santé. Je vous donne un ou deux exemples. Comment peut-on réussir sa scolarité en réseau d'éducation prioritaire quand les enfants de 6 ans qui y vivent ont deux fois plus de problèmes dentaires, deux fois plus de problèmes d'audition et d'obésité que dans les écoles qui sont hors éducation prioritaire? Comment peut-on réussir sa scolarité quand les enfants de ces quartiers ont en moyenne 30% de problèmes de vue en plus que la moyenne hors éducation prioritaire? On le voit, la question de la santé, elle impacte durablement l'entrée dans les apprentissages. Et donc, il faut une médecine scolaire, des médecins, des infirmières omniprésents dans ces établissements afin de permettre dès l'école maternelle, parce que ces difficultés, elles apparaissent dès l'école maternelle, eh bien, de pouvoir mettre en place une prévention médicale de tous les instants, un véritable travail en lien avec les équipes éducatives, les familles, les structures de soins dans les quartiers. Et dernière chose, les équipes éducatives ont par ailleurs besoin d'enseignants spécialisés afin de pouvoir traiter les difficultés scolaires, cognitives, comportementales qui sont directement liées à ces questions de santé et qui impactent durablement les apprentissages des élèves concernés.
Est-ce qu'il faut envisager de toucher à la carte scolaire pour encourager une vraie mixité sociale?
Oui, bien sûr. Le constat aujourd'hui, il est éloquent. 12% des élèves fréquentent un établissement qui accueille 2/3 d'élèves issus de milieux socialement très défavorisés. Et en classe de 3e, on voit aujourd'hui que 45% des établissements pratiquent une forme de tri entre les élèves et 25% des formes de séparatisme. Donc la question de la carte scolaire et la question de la mixité, elle est importante. Pourquoi ? Parce que on a besoin de cette mixité, on a besoin de cette hétérogénéité, on a besoin de cette altérité. Et c'est très important. Ce qui s'est fait par exemple à Toulouse, qui fonctionne assez bien, la mixité sociale, eh bien on voit que c'est un facteur de progrès pour tous les élèves. Et une classe homogène n'est pas une classe qui permet aux élèves de progresser. Or, une classe hétérogène, avec des élèves qui travaillent très bien, des élèves en difficulté, eh bien, ça aide les élèves en difficulté et surtout, ça n'empêche pas les élèves, les bons élèves, de pouvoir continuer à progresser. Et donc, l'altérité, c'est un processus, c'est un élément fondamental dans le processus éducatif et il faut donc, il faut reconsidérer la question de la carte scolaire, par exemple. Il faut aussi faire que les établissements privés qui reçoivent des subventions publiques de l'État, eh bien, soient intégrés dans la carte scolaire et soient également soumis à l'obligation d'accueil, comme le sont les établissements publics.
Yannick Trigance, Anne Hidalgo affirme qu'il faut réintroduire de la motivation à l'école par le sport, l'art, les apprentissages collaboratifs, sans oublier les programmes extrascolaires. Or, ce que constatent les parents, par exemple à l'école primaire et maternelle, c'est qu'il y a de fortes inégalités en fonction des moyens alloués par les communes. Organiser une sortie scolaire, ça coûte cher. Certaines mairies n'ont pas les moyens ou pas la volonté de financer des projets. Est-ce que l'État doit mettre la main à la poche pour que tous les enfants soient à égalité sur tout le territoire français?
Alors, vous mettez le doigt sur un sujet qui a été au cœur de l'actualité finalement il y a peu de temps. C'était la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, elle permettait à des enfants qui n'avaient jamais pu bénéficier d'activités sportives, culturelles, d'y accéder, et ce gratuitement, puisque grâce aux 5 matinées de classe, eh bien, cela permettait l'après-midi, 5 matinées de classe, cela permettait donc l'après-midi, organisé par les collectivités, de proposer des activités. Cette réforme a été supprimée. Le ministre Blanquer s'est arrangé pour qu'elle disparaisse petit à petit. En conséquence de quoi, on est revenu à la journée, à la semaine, pardon, de 4 jours plein pour les élèves, et donc les inégalités en matière d'activités artistiques, culturelles, sportives sont encore aujourd'hui malheureusement très fortes, et toutes les communes n'ont pas non plus les mêmes moyens, et les familles non plus surtout, et les familles non plus.
La France va présider l'Union européenne à partir du mois de janvier. À l'école, les voyages scolaires dans les pays européens sont très rares. Certes, il existe le projet Erasmus au niveau universitaire, mais il y a très peu de relations entre la France et les autres pays européens, que ce soit au primaire ou dans le secondaire. Est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez voir mis en avant dans le programme d'Anne Hidalgo ?
Oui, bien sûr. L'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres pays, aux autres cultures, aux autres systèmes éducatifs, elle est fondamentale. Et donc, il faut permettre aux étudiants, eh bien, de pouvoir voyager, de pouvoir échanger, d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. C'est un élément fondamental dans les apprentissages et dans le développement, dans la formation du citoyen. Et donc, il faut aider. Alors, l'État peut évidemment le faire, mais l'Europe aussi. Permet parfois d'avoir des financements qui sont souvent sous-utilisés, mais il faut développer, parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour se construire, eh bien, il faut aller voir, si je puis dire, ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir partir étudier à l'étranger, lorsqu'ils reviennent, ils sont transformés de manière, au sens positif du terme, ils sont transformés par justement les expériences qu'ils ont pu vivre à l'étranger.
Jean-Michel Blanquer a confirmé qu'une 50aine d'écoles de Marseille seraient intégrées dans une expérimentation qui permettra aux directeurs d'école de recruter eux-mêmes les enseignants. Est-ce que c'est une idée qui sera abandonnée si Anne Hidalgo est élue présidente ?
Écoutez, d'abord, j'observe que les directions d'école et les équipes éducatives sur Marseille se sont profondément élevées contre cette proposition de Jean-Michel Blanquer, qui remet en cause l'équité et l'égalité territoriale au sein de l'éducation nationale et entre les établissements scolaires. C'est en fait ce qu'a engagé Emmanuel Macron avec son ministre Blanquer. C'est une approche néolibérale de l'éducation. Qui vise à finalement introduire la concurrence et la compétition à la fois entre les établissements et entre les équipes éducatives. L'école publique aujourd'hui, elle a besoin de moyens pour pouvoir garantir la réussite de tous les élèves partout sur tout le territoire. Et ça n'est pas en introduisant des éléments de gestion néolibérale que les questions vont être résolues. D'ailleurs, j'observe que c'est une initiative qui, à mon avis, va tourner court assez rapidement.
Merci Yannick Trigance. Je rappelle que vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France et secrétaire national du PS à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.